Et à l'occasion de la deuxième journée, le plastique non merci que vous propose France Inter, nous recevons avec Léa Salamé dans le grand entretien du 7-9 la secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Question, réaction dans 10 minutes, amis auditeurs, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'appli Inter. Bonjour Brune Poirson.
Bonjour Nicolas Domon.
Merci d'être notre micro ce matin. Vous portez une loi qui sera présentée début juillet en Conseil des ministres. Une loi pour encourager l'économie circulaire, une économie plus vertueuse. J'extrais moins, je consomme mieux, je répare, je recycle. Hier, Édouard Philippe a annoncé l'interdiction d'ici 2 à 4 ans en France de la destruction des invendus non alimentaires, les vêtements, l'électroménager, les produits d'hygiène ou de beauté, tous ces produits qui parfois ne trouvent pas d'acheteurs et qui sont donc tout simplement détruits. C'est quand on y pense 10 secondes, l'une des formes les plus folles de gaspillage. Alors, qu'adviendra-t-il désormais de ces invendus? Des filières de recyclage Brune Poirson existent-elles déjà pour ces produits-là?
Alors, pas pour toutes, mais déjà, je crois qu'il faut se replacer un peu dans le contexte. Quelle est la philosophie derrière ça? D'abord, elle est de lutter contre la surproduction. La surproduction, c'est peut-être la maladie de notre économie. Puisque finalement, c'est pas très grave, on peut produire pour détruire. Bon, bah alors à ce moment-là, on ne fait pas suffisamment attention à ce qui est commercialisé et produit. C'est ça l'objectif. L'autre objectif aussi, il est de favoriser la solidarité. Regardez par exemple, en France, il y a 3 millions de personnes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à des produits d'hygiène de base. D'un côté. Et de l'autre, 91% des produits d'hygiène de base qui ne sont pas vendus sont détruits. C'est cette absurdité-là contre laquelle nous voulons lutter.
Ils vont aller où les invendus? Alors, ils ont interdiction d'être détruits.
Il y a une partie.
Il faut les donner ou il faut les recycler? Qu'est-ce qui va se passer?
Eh ben, ça dépend des produits. Il y en a qui seront utiles à d'autres personnes, à des associations par exemple, et là elles doivent être données en priorité. Et il y en a d'autres qui sont par exemple pas forcément aussi utiles et qui à ce moment-là peuvent aller dans des filières de recyclage. Mais à terme, encore une fois, c'est qu'il y ait moins de production.
D'accord, mais il faut donner. Vous dites qu'il faut donner. Les associations, notamment les Amis de la Terre, disent que les entreprises qui donnent leurs invendus à des associations qui ne sont pas reconnues d'utilité publique, par exemple Emmaüs, ne touchent pas la TVA, alors qu'elles récupèrent la TVA quand elles les détruisent. Mmh. Donc en fait, elles n'ont aucun intérêt à donner aux associations.
Et c'est là-dessus que nous allons travailler sur tous ces dispositifs-là, en s'inspirant de la loi sur le gaspillage alimentaire. Là, c'est la mesure que nous avons annoncée. Ensuite, il y a un débat parlementaire. Et c'est là où on travaille concrètement. Ensuite, après ça, il y aura, donc il y a le débat parlementaire et ensuite il y a les décrets de mise en œuvre. Ce que nous voulons, c'est quelque chose qui fonctionne, qui soit pragmatique. J'ai pas
toutes
les réponses.
Donc vous pourrez revoir
ces
circuits de la TVA dont vient de parler Léa.
Potentiellement.
Comment l'interdiction sera-t-elle appliquée? Est-ce que des sanctions sont prévues pour les industriels qui ne l'appliqueront pas? Édouard Philippe a dit hier qu'il n'était pas question de créer une nouvelle taxe dans votre loi.
Non.
Donc vous tablez sur la vertu des industriels et uniquement sur elle?
Mais pas du tout. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la DGCCRF, la Direction Générale du Contrôle de la Consommation, du Contrôle et de la Répression des Fraudes, dont c'est la mission et le travail. Premièrement, et deuxièmement, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, on veut aussi réformer les entreprises privées qui sont en charge de gérer, pour le compte d'autres entreprises privées, la fin de vie des déchets. On veut les réformer pour qu'elles soient plus efficaces, pour qu'elles atteignent leurs résultats. Et donc c'est ça aussi qui nous permettra de revoir l'architecture en France.
Donc vous dites là, c'est l'annonce, on va discuter au Parlement pour savoir les modalités d'application et comment faire. Le plastique, puisque vous êtes venu pour parler de cette question-là, c'est notre journée sans plastique. Chaque année, un Français jette près de 70 kilos de plastique. Est-ce qu'on en consomme trop du plastique? Est-ce qu'en recyclant, on ne fait que gérer les conséquences sans traiter la source du problème, à savoir qu'on est tous encore aujourd'hui accros au plastique?
Je crois que vous avez posé la bonne question, c'est la question de celle de la source du problème. Avant tout, je le disais, je parlais du gaspillage, ça c'est peut-être le constat qui a donné naissance à ce projet de loi, et c'est là-dessus que j'ai travaillé en réunissant depuis un an et demi des citoyens, des entreprises, des élus, des associations. Et ensemble, on a voulu avancer sur la lutte contre la pollution plastique. Et il y a plusieurs choses. D'abord, il faut changer nos modes de production et de consommation. Donc déjà, il faut commencer par réduire la quantité de plastique que nous utilisons. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, que la France s'est battue très fortement au niveau européen pour interdire certains plastiques, ce qu'on appelle à usage unique, c'est-à-dire les plastiques qu'on utilise une fois et qu'ensuite on jette, comme par exemple les pailles en plastique, les gobelets en plastique et autres. Et puis ensuite, il faut encourager le réemploi, c'est-à-dire la réutilisation des produits en plastique. Et c'est ce que ça va faire partie de ces nouvelles missions que nous allons confier à ces entreprises qui gèrent pour le compte d'autres, ces entreprises qu'on appelle les éco-organismes, qui gèrent pour le compte d'autres entreprises, la fin de vie des déchets. Nous voulons élargir leur mission. Et ensuite, ce qu'on veut faire, bien sûr, c'est favoriser le recyclage. Parce que une bouteille recyclée émet néanmoins, quoi qu'on en dise, ou une bouteille ou un autre objet en plastique, émet, s'il est recyclé, émet beaucoup moins de CO2 qu'un objet qui ne l'est pas et qui est fait à partir de plastique.
Mais le plastique n'est pas recyclable à l'infini. Pour le transformer, pour refaire du plastique à partir du plastique, il faut ajouter du plastique neuf. Et donc, est-ce que le recyclage plus profondément n'entretient pas la filière ?
Alors, je crois qu'il faut pas être naïf. Vous savez, on a quand même, pour certains usages, besoin du plastique. Rappelons.
Lesquels ?
Dans les hôpitaux, par exemple. On a tous eu, ou peut-être pas, j'espère, mais des perfusions ou des. C'est absolument vital pour transporter le sang ou autre dans des poches. Donc, on a besoin encore d'une certaine quantité de plastique. Ne soyons pas naïfs.
Non, mais là, on parle des pailles et autres.
Ah, mais ça, nous allons les supprimer. C'est ce que je vous disais.
Bien sûr, mais
il faut réduire. Oui, il faut réduire l'usage du plastique. Bien sûr. Ensuite, le recyclage, c'est pas la panacée. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut promouvoir, c'est le réemploi, mais aussi donc la réparation et tout ce qui permet d'utiliser un produit le plus longtemps possible. Et ce qu'il faut aussi, il y a quand même un champ immense, par exemple dans l'automobile, il y a encore besoin ou dans l'électronique, regardez vos téléphones portables ou vos ordinateurs, il y a encore du plastique. Et ce plastique-là, il faut qu'à minima, il soit fait et il incorpore du plastique recyclé. Et nous avons pas attendu, il y a ce projet de loi là sur lequel je travaille depuis un an et demi, mais il y a aussi des mesures que nous avons prises déjà en amont. Et par exemple, nous avons réuni avec le ministère de l'Économie et des Finances toutes les entreprises du plastique en France, et nous leur avons demandé de prendre, ou qui utilisent du plastique en France, et nous leur avons demandé de prendre des engagements volontaires ambitieux pour incorporer plus de matières plastiques recyclées dans les produits qu'ils commercialisent. Et ça fonctionne puisqu'aujourd'hui, la production de plastique recyclé en France, elle a augmenté de 12% en 2018. Donc on commence déjà à avoir des résultats.
Ouais, on est quand même
Ils se sont engagés à doubler la quantité de plastique recyclé qu'ils allaient incorporer dans leurs produits d'ici 2025, et nous voulons aller encore beaucoup plus loin. Nous allons les revoir et leur demander d'aller plus loin.
L'objectif du gouvernement, c'est que 100% des emballages plastiques soient recyclés d'ici 2025. C'est bien ça ?
Oui, aujourd'hui,
De tendre vers ça.
Absolument.
Parce qu'aujourd'hui, on est très en retard. La France est à 26%, recycle 26% de son plastique, contre 30% de moyenne au niveau de l'Union européenne. Mmh. Et en Allemagne, c'est 50%. Donc on est vraiment un des plus mauvais élèves. Comment vous comptez passer de 26% à 100% en 7 ans seulement ?
On a plusieurs mécanismes, comme je vous disais, en réformant ce principe de pollueur-payeur. Mais ce qu'on veut faire aussi, c'est que les produits qui sont bons pour l'environnement, ou en tout cas moins nocifs que les autres, eh bien, ils coûtent moins cher. Parce que c'est ça aussi, il faut que transition écologique et solidarité riment. Et il n'y a pas de raison que les produits qui ont un moindre impact pour l'environnement ne soient pas accessibles pour les plus modestes, parce que ça priverait beaucoup de nos citoyens de produits qui sont meilleurs pour l'environnement, et donc d'élimination des produits qui sont plus nocifs pour l'environnement.
Ça veut dire quoi ? Donner des
exemples concrets. Très concrètement. C'est-à-dire qu'un produit qui est meilleur pour l'environnement, il faut qu'il soit moins cher. Et donc, ça c'était notre postulat de base. Et on se dit, comment est-ce qu'on fait ? Parce que si on fait ça, et si on part de cette idée-là, c'est-à-dire qu'on élimine peu à peu, ça permettra d'éliminer les résines plastiques, par exemple, les moins vertueuses marché. Et donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait faire. On avait deux options, en gros, qui s'offraient à nous. Soit une baisse de TVA ou de la taxation, mais on s'est aperçu, et en prenant par exemple, en regardant ce qui s'est fait dans la restauration, on s'est aperçu que c'était pas forcément ce qui avait le plus efficace, puisque souvent, quand vous avez une baisse de TVA, elle est pas répercutée sur le prix final, on le voit dans la restauration, le menu n'a pas baissé, premièrement, et deuxièmement...
C'est une des grandes demandes des Gilets jaunes, la baisse de la TVA sur les produits premiers.
Et ça s'applique, là je parle du plastique, et ça s'applique en plus de ça, ça s'applique à essentiellement des grandes familles de produits. Or, nous voulons aller spécifiquement sur des produits précis. Et donc, l'option qui s'est ouverte à nous, c'est d'aller mettre notre nez directement dans la façon dont travaillent les entreprises privées. Et vous le savez, elles sont organisées et elles travaillent entre elles. Elles confient et elles versent pour chaque produit qu'elles commercialisent, elles versent à une entreprise privée une somme pour, et cette entreprise privée, là, gère pour leur compte la fin de vie de leur produit. Et nous voulons que cette somme, parce que cette somme-là, que le produit soit bon ou mauvais, c'est le même. Très concrètement, prenons un exemple. Une bouteille de shampoing à 3 euros. Si elle est en plastique recyclé ou si elle est en plastique qui n'est pas recyclable, de toute façon, elle est au même prix aujourd'hui. Et ce que nous voulons, c'est moduler avec un système de bonus-malus et faire en sorte que le bonus sur une bouteille en plastique qui est fait en plastique recyclé, eh bien, puisse permettre d'envoyer un signal prix et la bouteille de shampoing serait
une
moins chère. Et par exemple, à 2,40 au lieu d'être à 3 euros.
Célia Kiré nous a permis de mieux connaître l'entreprise de recyclage Citeo. C'était dans le Zoom à 7h15 ce matin, dans le 7-9. Citeo, financé par de grandes marques comme Evian, Danone, McDonald's, qui sont parmi les plus gros producteurs de déchets plastiques dans le monde. On a donc une entreprise, une filière de recyclage financée par ceux qui produisent eux-mêmes le plastique. Est-ce que ça n'est pas un cercle vicieux et infernal que d'être à chaque bout de la chaîne?
C'est pour ça que nous voulons réformer la façon dont ces éco-organismes, dont par exemple Citeo, mais aussi d'autres, travaillent. Et c'est pour ça que nous voulons refondre ces systèmes qu'on appelle de filières F, ces entreprises à but non lucratif qui gèrent la fin de vie des déchets pour le compte de d'autres entreprises par grande famille de produits. Il y en a pour les piles, pour le mobilier, pour les emballages plastiques. Pardon. Nous voulons les réformer en leur donnant des objectifs de résultats que nous allons contrôler, parce qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas les moyens. Donc nous voulons transformer ça, sans regarder comment exactement est-ce qu'elles doivent faire les choses, simplement en regardant et en leur fixant des objectifs de résultats et en s'assurant qu'elles sont bien sur la bonne trajectoire, et sinon en se donnant les moyens de les sanctionner. Ce qui aujourd'hui n'est pas possible.
Ça n'aurait pas été plus efficace de baisser la TVA ?
Non. Je viens de vous expliquer pourquoi. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on puisse aller dans la granularité. C'est-à-dire qu'on on puisse envoyer un signal prix positif pour chaque produit qui est vertueux ou qui est moins pire, entre guillemets, que les autres. Une baisse de TVA, d'abord, un, c'est pas toujours répercuté sur le prix final, premièrement. Et deuxièmement, ça s'applique que le produit soit bon ou mauvais. Nous, ce qu'on veut, c'est envoyer un signal très clair. C'est comme je disais, votre bouteille de shampoing en plastique, si elle est recyclée et recyclable, elle doit être moins chère que l'autre qui ne l'est pas.
On file au standard de France Inter. Nous avons déjà beaucoup d'auditeurs et de questions, notamment sur le plastique. Bonjour Maëva.
Bonjour.
Je vois sur l'affiche que vous avez 17 ans.
Oui.
On vous écoute. Allez-y.
Donc, bonjour Madame Parfum. Donc, en tant que secrétaire d'État, pouvez-vous nous expliquer pourquoi aujourd'hui on se focalise essentiellement sur la question du recyclage, alors qu'on devrait aussi nous focaliser sur la réduction de la production de plastique? Je m'explique. Aujourd'hui, nous prônons le zéro déchet plus qu'à l'époque. Mais c'est paradoxal car de nos jours, on peut voir de plus en plus de produits emballés à l'unité, comme des produits alimentaires, des avocats, des clémentines ou même des bananes. Que comptez-vous proposer concrètement pour limiter l'utilisation du plastique? Comptez-vous imposer des chiffres de réduction nette des quantités d'emballage? Et si oui, allez-vous prendre des mesures de sanctions sur les entreprises qui ne respecteraient pas ces objectifs?
Merci Maëva pour cette question. Restez en ligne. Maëva, 17 ans, très engagée manifestement. Brune Poirson vous répond.
Bonjour Maëva, déjà merci pour votre question qui traduit de votre sensibilité environnementale très jeune. Bravo, c'est bien de nous pousser aussi. Alors nous, ce qu'on a fait, on a fait plusieurs choses. On n'a pas attendu déjà de travailler sur ce projet de loi pour lutter contre le suremballage. On a lancé un pacte national sur les emballages plastiques qui vise à réduire qui vise 100% d'emballage plastique recyclé et une réduction drastique du suremballage d'ici 2025. Et là, il y a l'État et toute une série de grandes entreprises qui sont réunies et qui travaillent ensemble sous l'œil vigilant d'ONG, comme par exemple le WWF ou la Tara Foundation ou la Ellen MacArthur Foundation, qui vont regarder très précisément à intervalles très réguliers que nous atteignons bien, que nous sommes bien en route pour atteindre nos objectifs.
Maëva.
Premièrement, et d'autre part aussi.
Elle demande de la contrainte, Maëva. Allez-vous contraindre les entreprises?
Je voulais expliquer, là, on en parlait. C'est la question du bonus-malus. Une entreprise ou un produit qui est commercialisé en utilisant trop de plastique et ou du plastique qui n'est en plus de ça pas recyclable, eh bien le produit au final sera plus cher. Il fera l'objet d'un malus qui sera affiché sur le produit avec une étiquette par exemple rouge en disant attention, ce produit utilise trop de plastique. Et donc les personnes comme vous, Maëva, mais comme aussi beaucoup de Français, ils vont naturellement aller vers un produit qui est moins cher et qui est en plus de ça meilleur Maëva, pour l'environnement.
Maëva, vous êtes en ligne?
Oui, je
est-ce que vous êtes convaincue? Est-ce que vous voulez relancer, comme on dit nous dans notre métier, Brune Poirson?
Mais je pense que sa réponse était assez claire, mais bon, maintenant on attend d'avoir des résultats parce que ça fait longtemps qu'on en parle maintenant, donc on attend que ça bouge.
Eh bien, moi, je voudrais rebondir.
Merci Maëva, en tout cas.
Merci
un
Maëva.
Mot Brune Poirson et on retourne
non,
au standard.
Non, mais je crois que ce que Maëva dit, c'est très important, cette notion de résultat. Beaucoup sur l'environnement, pendant des années, on s'est contenté de faire des annonces à l'avenir. Et puis, par exemple, en disant d'ici 2025, d'ici 2030, d'ici 2040. Et de pas se donner de feuille de route vraiment pour atteindre ces objectifs-là et de se réveiller un an avant.
Vous dites aussi,
en
bon
disant,
respect. Vous dites, on,
non, mais moi, je change la
méthode.
D'ici mais bien 2025. Sûr, mais ça s'accompagne d'une méthode de travail. C'est ce que je dis. Là, on travaille avec des ONG. Qui vont, par exemple, sur le pacte national sur les emballages plastiques, qui vont chaque année vérifier que nous sommes en chemin. Nous voulons de la transparence et de la redevabilité à toutes les étapes.
Deux questions sur l'application de France Inter. Lucas rappelle qu'il y a quelques mois, dans ce même studio, Nicolas Hulot démissionnait. Depuis, dit-il, le président et son gouvernement sont devenus écolos. C'est formidable. Il a fallu que la personne qui symbolise le mieux l'écologie vous quitte pour que vous commenciez à vous intéresser. Ce cynisme est hallucinant. Le mot cynisme revient beaucoup dans les questions. Celle de Rémi, formidable cynisme. Vous favorisez la production de masse, la surconsommation, la croissance, et ensuite vous développez un discours de faux semblant. Vous êtes peu cru, mal compris, Brune Poirson. Que répondez-vous à Lucas et Rémi?
Moi, je lui réponds qu'il n'y a pas de cynisme de notre part, aucun. Et je crois que c'est ça qui est dramatique, c'est que s'accuser les uns les autres de cynisme. Pardon. Et moi, j'ai une petite fille de 4 ans. Vous croyez que je me lève tous les matins en me disant « Mais comment est-ce que je vais polluer le plus la planète ?»
C'est
ouais,
pas la
c'est
question,
ça mon but.
Hein, c'est pas la question.
Mais vous croyez,
la
vous
question
croyez,
est la suis, sincérité de votre engagement.
Eh bien, la sincérité.
C'est Lucas et Rémi qui vous le disent.
Vous, Brune Poirson,
mais pas
du
pas nécessairement de moi, de l'ensemble du gouvernement. Parce que je vais vous dire une chose. Bien sûr, depuis la démission de Nicolas Hulot, on nous fait un procès en insincérité. Mais vous savez, il y a plusieurs types de responsables politiques. Il y a des responsables politiques, par exemple, comme Nicolas Hulot, qui jouent un rôle essentiel pour éveiller les consciences, pour être un lanceur d'alerte, pour montrer la direction, pour être dans les grands principes et faire bouger la société. Et puis il y a ceux derrière aussi qui restent à l'intérieur du système, des gens comme moi, comme par exemple Emmanuel Macron ou d'autres, qui là rentrent dans la mécanique des choses pour faire avancer les choses. Oui, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité.
Mais vous reconnaissez que vous avez changé.
Et effectivement,
vous reconnaissez que
non,
vous avez changé.
Mais je crois...
C'est juste pour défendre la question de Lucas et Rémi et me faire leur interprète. Ils disent ils ont changé. Tiens, ils ont découvert le monde vert.
Mais c'est faux. C'est entièrement faux. Vous savez, quelqu'un comme Emmanuel Macron, quand il est là, vu sa position, il peut être soit le dernier président du XXe siècle, soit le premier président du XXIe siècle. Je crois qu'il a déjà prouvé qu'il voulait et qu'il était le premier président du XXIe siècle avec la recomposition politique qu'il est en train de mettre en œuvre, avec le dépassement de la gauche et de la droite. La transition écologique, c'est un sujet qui est majeur et qui doit être central, quelles que soient vos idées politiques. Et en particulier, si vous avez une volonté d'avancer les choses et de faire entrer la France dans le XXIe siècle.
Nos auditeurs ont leur réponse.
Ça fait partie de notre ADN majeur.
Autre exemple, si vous le voulez bien, la loi mobilité qui est actuellement à l'examen à l'Assemblée nationale, elle inscrit l'interdiction des moteurs thermiques d'ici 2040. Yannick Jadot, qui est à votre place il y a deux jours, dit que c'est beaucoup trop loin, beaucoup trop long, que le climat n'attend pas et il veut les interdire d'ici 2030. Il n'a pas raison?
Bien sûr, plus on interdit les choses rapidement, mieux c'est. Maintenant, est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de commercialiser, les moyens technologiques, hein, de commercialiser une voiture électrique à bas coût pour tout le monde d'ici 2030? Je suis pas nécessairement sûre.
Vous dites à Jadot
qu'il
est utopiste, c'est ça?
Je dis simplement que il faut à chaque fois, et c'est ça, si on veut faire avancer l'environnement, il faut le frotter à la réalité. Il faut que les idées, elles soient aussi quelque part réaliste. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser l'ambition. C'est-à-dire qu'il faut se donner véritablement les moyens d'atteindre les objectifs. Et moi, je crois que l'écologie du 21e siècle, c'est une écologie qui est pragmatique, qui sort des postures et des grands principes. Alors, pour aller vers des résultats qui sont très concrets. L'interdire dans la loi d'ici 2040, c'est déjà une avancée majeure.
Autre exemple, Greenpeace a durement critiqué le refus par le premier conseil de défense écologique d'imposer une taxe kérosène sur le transport en avion pour les vols intérieurs. Cela pénaliserait les entreprises comme Air France, dit Gérald Darmanin. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, à l'échelle française, une taxe sur le kérosène, c'est pas compliqué. Les avions, quels qu'ils soient, ils vont aller faire leur plein en Belgique, en Angleterre, ailleurs. Donc, il faut le faire au niveau européen. Je peux vous dire que nous n'avons pas attendu, là, aujourd'hui, le Conseil de défense écologique pour commencer à travailler sur cette question-là. Nous y travaillons à deux titres. Premièrement, dans le cadre du G7, et le président de la République a réuni autour de lui un One Planet Lab. Oui, pardon, c'est un mot anglais, mais c'est la réalité. Nous entourons des experts sur la question pour nous aider à changer les choses, à influencer les autres États et à les faire monter à bord de cette idée de mettre une taxation sur les kérosène.
Ils sont travailleurs.
On est en train de faire cette coalition-là. Et nous sommes en train aussi de travailler au niveau européen pour ça. Et d'ailleurs, je me rends à la fin du mois aux Pays-Bas pour avancer sur cette question-là précise, premièrement. Et d'autre part, ça ne suffit pas. C'est là où l'environnement est le projet peut-être le plus enthousiasmant qui soit. Il faut aussi repenser la façon dont on fait les choses. Il n'y a pas qu'une taxe sur les kérosènes. Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas les avions? La technologie. Et bien, par exemple, il y a des avions qui pourraient peut-être un jour transporter 300 personnes ou plus et fonctionner à l'énergie solaire. Moi, je travaille par exemple avec Bertrand Picard de Solar Impulse qui a montré que c'était possible. Il y a des choses qui sont possibles. Il faut qu'on explore des nouvelles frontières technologiques, des nouvelles frontières morales aussi.
Et sur l'interdiction des vols intérieurs en avion, quand le train permet de faire le même trajet dans un temps raisonnable proposé par François Ruffin et Delphine Bateau, vous êtes favorable à une telle mesure ou pas ?
Moi, je pense que déjà, premièrement, personne n'est obligé de prendre l'avion. Deuxièmement, il y a des territoires qui sont enclavés et parfois, c'est la réalité, vous n'avez qu'un aéroport. Et troisièmement, moi, j'aimerais bien aussi que ces personnes-là, elles passent beaucoup de leur énergie à parler de questions de mobilité du quotidien. Vous savez, moi, chez moi, la question, par exemple, dans ma circonscription, dans le Vaucluse, oui, on se sent isolé. La question, elle est beaucoup, comment est-ce qu'on fait de façon libre, sans dépendre du seul bus qui passe dans la journée, pour faire Marseille, Apte, Marseille, Carpentras, ou Marseille, Saint-Didier, par exemple. C'est ça aussi les vraies questions. C'est là, et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et oui, c'est bien plus dur que des effets de manche.
C'est des effets de manche de dire ça.
En partie.
Et voilà, c'est votre contribution à ce débat lancé par François Ruffin et Delphine
Bateau. Ma contribution,
c'est
pas de répondre, c'est un effet de manche. C'est, vous l'avez vu, de dire ça doit se travailler à plusieurs niveaux.
Merci Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire.